Mais bon.
Directeur de la radio insolite, j'ai intérêt à faire très attention ce matin. Attention, officiellement, je suis censé être avec une comédienne. Mais elle n'est pas que comédienne, parce que d'après les infos que j'ai, attention, elle a fait des arts martiaux depuis 5 ans, du Tao Tai Chi, de la boxe thaï et du Kung Fu. Bonjour, bonjour Clara, t'es gentille, hein, s'il te plaît.
Bonjour.
Bon, c'est quoi cette histoire là? Tu es sportive, tu es comédienne, tu fais les deux, qu'est-ce qui se passe?
Oui, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à faire des choix de manière générale, donc oui, je fais les deux. Après, alors je sais pas où tu as eu ces infos, je dirais peut-être dans la rubrique compétences tout à gauche de mon CV. Donc oui, je fais effectivement des arts martiaux, mais enfin, c'est loin d'être professionnel, quoi. Je suis encore en débutante.
Non, mais je pense que ça peut être important par rapport à la comédie que tu joues. Parce que ça te permet de...
Ah oui, c'est super important. Le tai chi, j'en fais là depuis... ça fait 5-6 ans maintenant que j'en fais. Avec un super prof au bois de Vincennes. Et c'est vraiment incroyable. Ça m'aligne complètement. Avant de jouer, j'en fais toujours. Et c'est vraiment savoir, tu vois, réceptionner l'énergie de l'extérieur et la traiter de l'intérieur et la rendre. Et ça, c'est une super discipline pour le théâtre. Donc ça, j'arrête pas. Et par contre, pour les trucs un peu plus violents, je galère un peu plus quand même.
D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait...
Oui, je suis très sportive.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait tomber dedans quand t'étais petite? T'es née dans le ventre de maman, tu faisais déjà du théâtre?
Pas du tout. Ah, le théâtre, non. Moi, je faisais beaucoup de danse à la base, dès le ventre de maman, d'ailleurs. Ma mère, elle est médecin psychiatre, donc rien à voir. Mais par contre, elle a fait de la danse toute sa vie, jusqu'à très très tard. Et moi, j'ai commencé la danse classique à 3 ans, avec ma meilleure copine Marion. Et j'ai continué jusqu'à mes 25 ans, et on en faisait de 6 à 8 heures par semaine, tu vois. Et j'ai toujours adoré ça, et c'est mes profs de danse qui disaient souvent, qui disaient à mes parents, mais Clara, faut vraiment qu'elle fasse du théâtre, parce que c'est pas celle qui a la meilleure technique, mais c'est celle qui incarne beaucoup plus le geste. Et on voit qu'elle est très 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 traversée par le geste, en fait, et ce qu'elle vit dans la danse, et on pense vraiment qu'elle devrait faire du théâtre. Et donc ça a trotté dans ma tête pendant toute mon enfance. Et après, j'ai fait des études. D'ailleurs, je t'en ai parlé tout à l'heure. J'ai fait des études de commerce. J'ai fait une prépa et puis après, j'ai fait l'EMU1. À l'EMU1, on avait une asso d'audiovisuel dans laquelle j'ai commencé à jouer. J'ai adoré. Et du coup, vers 23 ans, je me suis inscrite à des cours de théâtre. Et je suis tombée complètement amoureuse. Et dès que j'ai été diplômée de mon école, j'ai toujours su que c'était absolument pas ce que je voulais faire. Et c'était un petit peu pour faire plaisir à mes parents. Je me suis tout de suite mise dans une école de théâtre pour apprendre le théâtre et en faire mon métier.
D'accord. Et puis en plus, c'est pas n'importe quelle école, puisque vous avez fait l'école de Raymond Acquaviva quand même.
Raymond Acquaviva, ah oui, c'est l'école de Raymond. Oui, je pensais Raymond Acquaviva avait fait le MU1. Je me suis dit, ah bon.
Oui, non, non, oui, c'est pas.
Oui, Raymond Acquaviva, oui, tout à fait. Avec qui je travaille d'ailleurs, un peu.
D'accord. Alors,
dans ces pièces.
Alors, d'après les infos que j'ai aussi, tu as une jolie voix. Tu chantes?
Oui. écoute, ouais, j'ai une jolie voix. Oui, je chante. Je chante un petit peu. Je prends des cours avec une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Anna Luigi, qui est une chanteuse lyrique. Et je prends des cours avec elle toutes les semaines. Et c'est ma petite bulle à moi. Et petit à petit, on va vers le chant lyrique. Et oui, j'adore ça. J'adore chanter.
D'accord. Alors, on pourrait continuer quand même en te proposant d'aller faire un exercice de style, parce que dans ta présentation, je sais que tu as plusieurs accents. Français, ça c'est clair, belge, québécois, sud-ouest, sud-est, suisse, suédois, américain, anglais. C'est bien. Mais par contre, quand même, tu aimes bien les voyages, j'ai l'impression, non?
Oui, complètement. J'ai beaucoup, beaucoup voyagé. Donc, le MU1, finalement, c'est un petit peu ce qui m'a permis, c'est un peu le seul truc que ça m'a permis de faire, c'est vraiment de voyager. Je suis partie vivre un peu moins d'un an en Chine pour un échange universitaire. Et c'est la toute première fois que je posais mes pieds en Asie. Mmh. Et je suis tombée complètement amoureuse de l'Asie, de manière très générale. C'est la première fois que je partais aussi loin toute seule, et j'ai fait des voyages sublimes. Et donc, comme je vivais en Chine, en fait, on peut pas sortir de Chine sans visa. Donc, je me suis dit, je vais explorer la Chine. La Chine, c'est aussi grand qu'un continent. Donc, j'ai fait plein de voyages absolument magnifiques, et notamment un qui s'appelle le Yunnan. C'est la chaîne de montagnes qui est face au Tibet. Et c'est là où a commencé la marche rouge de Mao Tse-tung. Et ça a été franchement, je crois, le plus beau voyage que j'ai fait de ma vie. Donc, on escaladait des montagnes pendant des jours et des jours et des jours. Et puis, on arrivait dans des monastères absolument sublimes, en plein milieu des montagnes. Et c'est là, par exemple, je fais un petit lien du coup, mais c'est là où en fait j'ai découvert le mythe de Tiange, qui est la déesse de la lune que les Chinois célèbrent en automne. Voilà, et c'est mon guide avec qui était vraiment incroyable, ce mec était super, qui m'avait présenté le mythe de Tiange, et je me rappelle toujours de cette histoire. En gros, on venait de marcher pendant, je sais pas, 3 jours. On avait atteint un sommet sublime. Vraiment, je crois que j'ai jamais vu un paysage pareil. Il faisait nuit. Et il me dit, regarde la lune. Regarde bien. Donc, je la regarde. Je dis oui. Il me dit, regarde, est-ce que tu vois quelque chose bouger? Et je dis pas non. Est-ce que je devrais voir quelque chose bouger? Et il me dit vraiment, regarde bien, regarde bien, regarde bien. Et j'ai regardé longtemps, longtemps, et puis au bout d'un moment, évidemment, l'imaginaire fait le travail, donc j'ai commencé à imaginer, donc voir quelque chose bouger. Et il me dit, eh bien, c'est Tiange, la déesse de la lune, et il m'a raconté le mythe. Et j'ai trouvé le mythe sublime, et je sais pas si tu veux que je le raconte, d'ailleurs.
Ah bah si, parce que de toute façon, comment dire, on peut faire le lien, étant le fait que c'est le spectacle que tu as présenté à Avignon, ouais, l'an dernier, et que tu vas représenter à nouveau cette année.
Exactement. Alors, le mythe de Tiange, donc moi je l'ai complètement remasterisé à ma sauce, parce que je voulais vraiment faire une histoire à moi, etc. Donc c'est une histoire qui est inspirée du mythe. Mais le mythe, je raconte, je vais essayer de faire rapide. Donc déjà, il faut savoir que c'est un mythe qui date d'il y a plus de 3000 ans, 4000 ans même, pardon. Et en fait, il y a du coup, comme c'est très vieux, il y a plein de versions différentes. Et une des versions un peu la plus connue, c'est cette histoire. Donc c'est Tiange et Hui, c'est un couple de dieux. Et Hui est le dieu archer. Un jour, sur Terre, il y a 10 soleils qui se sont alignés pour brûler la Terre. Et l'empereur Yao, qui était l'empereur de Chine à cette époque, n'arrêtait pas de prier les dieux pour qu'on lui vienne en aide et qu'on vienne sauver son peuple. Hui entend ses prières, descend sur terre avec sa femme Tiange, et avec son arc, il vient abattre 9 des 10 soleils qui brûlaient la terre, et il en laisse un pour l'équilibre de la nature des éléments. L'empereur Yao, pour le remercier, lui offre un élixir de vie à partager avec sa femme, et si les deux le boivent ensemble, alors ils vivront ensemble très 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 longtemps sur terre. Et pendant ce temps-là, l'empereur Yao fait de Hui un peu son bras droit, militaire, et Hui continue ses missions sur Terre et tue les créatures et les monstres qui viennent globalement faire chier les hommes, et puis voilà, il continue ses journées comme ça, pendant que Tiange, sa femme, attend. Et Tiange observe quelque chose que Hui, visiblement, ne constatait pas, c'est que comme toute personne sur Terre, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je te laisse deviner.
je sais pas, il allume la télé et puis regarde du foot.
Alors globalement c'était un peu une diversion. Non, comme toute personne sur Terre, Tiange, elle se rend compte qu'ils vieillissent. Ah. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc elle commence à avoir très peur, et puis ils se mettent d'accord avec Hui de boire cet élixir de vie ensemble à un certain moment, je crois, de la pleine lune, j'ai plus exactement les détails. Sauf que Tiange a tellement peur, elle est tellement angoissée par le temps qui passe, qu'un jour, en cachette, elle décide de boire toute la fiole d'élixir de vie sans Hui. Et elle devient tellement légère qu'elle s'envole sur la Lune, et elle reste coincée sur la Lune à tout jamais. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit à chaque fois, regarde la Lune, il y a Tiange qui est là-bas. Et j'ai trouvé que le mythe était déjà très beau, et surtout d'une intelligence et d'une modernité assez frappante. Parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est encore une fois, c'est la femme qui finalement a subit beaucoup plus la pression du temps que l'homme. C'est-à-dire que lui, il est pris dans ses journées, finalement, il se rend pas vraiment compte, il est pris dans ses journées à aller terrasser des monstres, etc. Et elle, en fait, elle voit qu'elle vieillit, elle ne supporte pas ça. Et quand j'ai... Donc ce mythe, il me tournait dans la tête quand même pendant assez longtemps, je le trouvais vraiment beau. Et pendant toutes mes études de théâtre, je me disais, ah là là, j'ai trop envie d'adapter ce mythe au théâtre, déjà parce que je trouve que la culture chinoise, je l'ai pas beaucoup vue au théâtre. En plus de ça, je trouve que c'est visuellement très beau. On peut faire quelque chose de visuellement très beau. Moi, en plus de ça, je suis fan de Michel Oslo. Je suis fan de tout ce travail d'ombre chinoise, etc. Et j'imaginais quelque chose de très beau là-dedans. Et en plus, à l'époque, enfin moi, quand j'ai écrit Tiange, c'était il y a 2-3 ans, de 2 ans, j'étais en fin de vingtaine et je commençais doucement à me diriger vers la trentaine. Donc un âge qui fait extrêmement flipper tout le monde et surtout les femmes. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de parler de ce mythe parce que j'ai envie de parler de la femme qui vieillit et c'est quoi son rapport en fait au temps, notre rapport au temps. En plus de ça, bon, je vais pas épiloguer là-dessus, mais on voyait le réchauffement climatique, on voyait cette espèce de pression des médias constamment à attirer notre attention. Et moi, en plus de ça, j'avais fait un mémoire à l'époque qui était sur le temps d'attention, qui est le nouvel or noir des médias. Et j'avais beaucoup lu des choses de Bruno Patino, qui était le directeur de Arte à cette époque, qui parlait de l'économie de l'attention, etc. Du fait qu'on avait un temps d'attention moyen de 3 secondes, il appelait celle la civilisation du poisson rouge, et à quel point le temps était une bataille pour tous les médias, pour qu'on puisse... Enfin, c'était vraiment l'or brut, quoi. Et je me disais, putain, le temps, c'est vraiment un truc qui me taraude et j'aimerais vraiment essayer de le traiter dans cette pièce et de manière philosophique. Et donc, j'en ai parlé à Emma, qui est ma meilleure amie, qui joue Chengue, qui est une superbe comédienne, et qui, en parallèle de ses études de théâtre, a fait Les Gobelins. Et alors, elle, c'est une artiste, elle fait du graphisme, elle fait de l'animation, et c'est une artiste absolument formidable. Et elle me dit, Clara, je veux absolument travailler sur cette pièce avec toi. Je veux qu'on fasse un truc vraiment à la Michel Houellebecq, à la Miyazaki. On va vraiment faire un dessin animé au théâtre. C'était vraiment notre objectif, quoi. Et donc, voilà, on est parti, on l'a développé en un an avec mes meilleurs amis l'année dernière. On est parti à Avignon avec. Et moi, je l'ai complètement transformé le mythe. Déjà parce que je voulais vraiment faire un Alice au Pays des Merveilles un peu au théâtre. Donc avec des choses que moi, je remarque dans la société. Je veux pas du tout faire une leçon de morale aux gens. C'est vraiment plus... quelque chose de drôle, de comique, qui vient apporter une réflexion sur notre rapport au temps et pas du tout quelque chose qui vient donner une leçon. Mais donc c'est une pièce qui est quand même très drôle, très comique. Et donc j'en ai fait une sorte d'Alice au Pays des Merveilles. Et l'histoire, je l'avais un petit peu transformée dans la version d'Avignon l'année dernière. C'est Chengue qui vient de la Lune. Elle veut, là, parce que la Lune pour moi c'est l'espace de liberté, l'espace d'apesanteur, l'espace de l'enfance où on ne vieillit pas. Et donc, un jour, elle atterrit sur Terre en ayant suivi son mari, oui. Et elle veut remonter sur la Lune parce qu'elle se voit vieillir. Elle ne supporte pas l'empire dans lequel elle évolue. Où c'est un empire qui est complètement oppressé sous les diktats et la pression du temps. C'est-à-dire un monde où tout va trop vite. Un monde où on doit aller de plus en plus vite et où finalement on ne peut pas s'arrêter. Elle ne supporte pas. Et donc, elle décide de remonter sur la Lune par ses propres moyens. Et sur le chemin, elle rencontre plein de créatures complètement loufoques. Il y a des fourmis ouvrières tayloristes. Il y avait des oiseaux de la mafia italienne. Voilà, enfin, on a vraiment fait un truc complètement loufoque, très drôle. Et surtout, on a un musicien qui joue en live sur le plateau avec nous. Parce que on s'est dit qu'on pouvait pas faire déjà un dessin animé au théâtre sans musique, en live. Et surtout, moi je me suis dit, le temps, on peut pas parler du temps si on parle pas du tempo, du rythme. Et donc, en fait, il faut que le musicien nous apporte le rythme tout le long de la pièce. Voilà, bon, je me suis énormément épanchée. mais globalement, voilà.
Ouais, alors, il faut quand même que je précise que si j'ai parlé du Festival d'Avignon, c'est que là, tu as intérêt à pas perdre ton temps parce que ce qui est original, c'est que nous sommes le vendredi 29 mai aujourd'hui et tu joues dans quelques minutes.
Et je joue, évidemment, tout à fait, je joue à 20h30. On joue tous les week-ends. Le vendredi, samedi à 20h30 et le dimanche à 16h30 jusqu'au 28 juin. Et après, on part à Avignon au Théâtre du Rempart.
D'accord. Donc, guichet Montparnasse, comment dire, aujourd'hui, demain à 20h30, je ne vais pas dire de bêtises. Oui. Et dimanche, donc, à 16h30 jusqu'au 28 juin.
Exactement.
Quand on a fait une fois Avignon, qu'est-ce qu'on va chercher une deuxième fois à Avignon ?
Eh bien, c'est pas très intéressant de partir qu'une seule fois à Avignon. En général, il faut toujours partir 2-3 fois, déjà pour faire connaître la pièce. Et puis nous, l'année dernière, en plus, on a fait un énorme pari, c'est que on y est allé sans avoir joué avant. Donc on a testé le spectacle à Avignon. Et on avait fait une levée de fonds, on avait eu les moyens de le faire, donc c'était une super opportunité. Et ça a vraiment bien marché. Les gens sortaient emballés et on disait, putain, c'est dingue, on n'a jamais vu ça au théâtre. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est une bulle, on est dans une bulle immersive, on voyage, et on a l'impression que c'est... À Avignon, il y a quand même énormément de pièces qui sont d'ailleurs soit super, soit affreuse, enfin bref, mais il y a beaucoup, beaucoup de pièces. Mmh. Et très souvent, même si c'est des pièces qui varient, c'est pas surprenant de se dire que les pièces parfois se ressemblent un peu. Et là, c'est vrai que les gens disent, putain, c'est dingue, on n'a jamais vu ça. Et on s'est dit, bon, ok, il faut le porter, ce projet, il faut le porter jusqu'au bout, parce qu'on pensait vraiment qu'il y avait il y avait quelque chose à faire. Moi, je suis repartie en écriture. On a changé un petit peu d'équipe parce que du coup, pour des raisons professionnelles et personnelles, nos amis avec qui on jouait pouvaient pas continuer. Donc, on a Baudouin qui nous a rejoint et notre musicien a changé. C'est un musicien live qui fait des choses absolument extraordinaires. C'est un improvisateur. Donc, en fait, il improvisait en même temps que nous, on improvisait au plateau. Enfin, c'est fabuleux. Et moi, je voulais aussi, l'histoire est magnifique. Le rythme est super, mais je voulais simplifier un petit peu l'histoire. C'est comme si de la mythologie chinoise, et que je voulais vraiment la porter au théâtre, ça embrouillait un petit peu les gens, parce que j'essayais de raconter l'histoire en même temps que je voulais raconter mon histoire à moi que j'ai réécrite. Et donc je suis repartie en écriture, et on a fait quelque chose de finalement, enfin, la pièce a complètement évolué, c'est la même pièce, il y a des scènes qui restent, etc., mais elle a vraiment grandi, quoi. Et là, en plus, on a un petit peu transformé, j'ai transformé le point de vue, là déjà c'est une pièce qui se passe plus ou moins dans l'espace. On a fait du travail de corps, on a fait du travail d'ambiance. Octave, il improvisait pendant que nous, on improvisait au plateau. J'ai fait beaucoup d'écriture plateau, etc. Et en fait, là, la pièce, elle a considérablement évolué. Donc, en fait, pour moi, c'est un projet, surtout un projet comme ça, c'est un projet qui se porte vraiment sur la longueur parce que c'est un projet qui doit vraiment grandir.
D'accord.
Et donc, Avignon, une deuxième année, on trouvait que c'était hyper logique, en fait.
En tout cas, n'hésitez pas à vous faire plaisir, puisque je vous rappelle, c'est à partir de ce soir, 29 mai, le vendredi, le samedi à 20h30, le dimanche à 16h30, au Guichet Montparnasse jusqu'à 28 juin. C'est un peu le tour de chauffe avant d'arriver à Avignon et de passer donc ce mois de marathon. Je veux te remercier d'avoir parlé de manière aussi passionnée. C'est vrai que tu donnes envie de venir voir, parce qu'on se dit que tout compte fait, c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Merci à toi en tout cas, et puis plein de bonnes choses.
Merci beaucoup à toi. Merci.